avant, mon compte Instagram avait pour pseudonyme Créature, ou du moins Sad Créature, pour faire encore plus esthétique, Tumblr, tout ça, bon bref. Mais je trouve que Créature, c'est assez marrant, parce que dans tous les cas, tu crées une personne ou une persona quand t'es sur les réseaux sociaux, ou du moins tu choisis un mode d'apparaître particulier.
Ouais, tu t'auto-esthétises dans un sens et tu te mets en scène, tu te dédoubles.
Oui, en fin de compte, c'est jamais toi qui apparaît vraiment, mais c'est la façon dont tu choisis de te montrer sous quel jour, sous quel angle. Et en fin de compte, tu crées quelque chose. Enfin, c'est toi-même qui choisis de manière réfléchie et consciente ton apparaître.
Moi, je suis pas tant d'accord, parce que je dirais qu'il y a un double mouvement, qui est que, et c'est toujours le cas dans la plupart des phénomènes, c'est-à-dire qu'il y a eu un début. Il y a eu un début où tu as pu choisir, ou alors par quelques circonstances, tu as fini par faire cette blague-là, et à partir de là, tu es enfermé en fait dans ta persona. Tu es enfermé dans ce principe du d'un coup, je suis obligé de faire des blagues parce que les gens s'attendent à faire des blagues. Ça marche, le fait de faire des blagues. Je fais des likes à chaque fois que je fais ce genre de blague. Donc tu continues. Et au final, je dirais que la persona, c'est pas tant toi, mais c'est aussi la relation qui a été bâtie. Est-ce que tu crois aussi que les gens attendent de toi ? Est-ce que les gens attendent réellement de toi ?
Du coup, comme si la persona et du coup le personnage que tu te crées prenait une certaine autonomie et acquérait son autonomie propre par rapport à...
Il prenait même le dessus sur toi-même, sur la personne que t'es, et commençait à te bouffer dans un certain sens. Parce que cette personne-là t'impose en fait, entre guillemets, des modalités d'existence. Quoi.
C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.
Je pense en effet que le rôle d'un philosophe, c'est de déranger un philosophe qui arrangerait, qui réarrangerait les choses. Pas, je crois, le rôle qu'on doit jouer actuellement, le philosophe et la philosophie. Mais on ne dérange jamais assez, enfin, en tout cas, j'ai eu conscience d'avoir dérangé bien peu et bien moins que je n'aurais voulu.
À vrai dire, au jardin, je n'aime bien travailler, car je suis littéralement absorbé par les formes, les couleurs, la lumière, et je préfère l'ombre du bureau pour écrire.
Après, amour, toujours. De renoncer à tout ce qu'il faut, à tout ce qui est à moi, tu vois, pour quelqu'un d'autre. Je suis responsable de la misère d'autrui, même souvent de la bêtise d'autrui.
Bienvenue sur Radio Piole.
Vous écoutez Radio Piole et aujourd'hui nous sommes en présence d'Anthony.
Bonjour.
D'Anna.
Bonjour Marianne.
De Benjamin.
Bonjour.
Et de Marianne, moi-même. Nous allons parler aujourd'hui du sujet de la créature, qui est un sujet, ma foi, complexe et riche. Et on va commencer par l'étymologie du mot. Est-ce que quelqu'un veut faire un point étymologique ?
Mais dis-nous Marianne, quelle est l'étymologie de la créature ?
Alors l'étymologie de créature provient du latin chrétien, creatura, qui signifie acte de la création, ou ce qui est créé. Et ça se rapporte spécialement en fait à l'homme et au fait que c'est une créature de Dieu. Voilà, donc en fait on voit qu'il y a directement une connotation religieuse dans cette étymologie. Ça préfigure un petit peu le premier axe qu'on va explorer, il me semble, puisqu'on va se concentrer la distinction entre créature et création. Oui. Donc aussi, ces deux termes sont complémentaires, on va dire.
Mais déjà, c'est marrant que tu mentionnes le fait que créature, ça désigne explicitement l'homme, parce que justement, je me suis replongé dans mon bréviaire, et en Genèse 1:6, il y a quand même une petite nuance, c'est que la créature, ou du moins la première des créatures de Dieu, issue précisément de la parole de Dieu, c'est la lumière. Je cite, c'est Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, bon, etc., etc. Et puis ensuite est mentionnée la lumière, c'est-à-dire que créature, est-ce que ça désigne vraiment l'homme avant toute chose, ou bien est-ce que ça renvoie à l'ensemble des actions et des œuvres de Dieu ?
C'est d'ailleurs une tension qu'on va explorer, dans le sens où on va pouvoir se demander si la créature relève nécessairement du vivant et de l'animé. Ou si on peut penser la notion de créature à travers quelque chose de plus général, de plus vague, puisque la lumière, par exemple, on peut considérer que c'est quelque chose qui relève pas du vivant, de l'animé, ou enfin, en tout cas, ça dépend du point de vue duquel on se place.
Oui, parce que cette tension que tu as mentionnée un peu plus tôt entre créature et création, j'ai l'impression qu'elle peut être évoquée en deux sens, c'est-à-dire que la création comme acte créateur, c'est-à-dire comme processus, et puis la création comme ce qui relève de ce processus, comme en étant l'effet, soit l'objet créé. Et ce qu'on remarque, c'est que la créature, pour advenir, elle suppose non seulement un être animé qui la crée, mais elle-même être quelque chose de vivant, qui est susceptible de changement, par exemple. Et on peut évacuer des exemples comme ceux de la lumière, puisqu'on parlerait plutôt d'une création, à la rigueur, comme on parle, mettons, de création artistique, plutôt que d'une créature.
Surtout qu'en fait, il y a l'idée dans la créature que en fait, la créature émane du créateur. Il y a un peu cette idée que le créateur met une part de lui dans la créature, et puisque le créateur en lui-même est animé et vivant, ça paraît un peu étrange d'imaginer une créature qui ne l'est pas. Dans le sens où Dieu a fait l'homme à son image, et Dieu est la vie, l'animé, etc.
Mais une autre tension contemporaine qui pourrait avoir lieu par rapport à cette question, c'est justement la question de la machine. À quel point on a mis quelque chose de nous dedans, à quel point elle est animée. Puisque, comme on l'a mentionné très rapidement, l'animé, au fond, la créature est une création animée. C'était à la limite une créature qui dispose, c'est déjà faire un grand pas, mais d'un semblant de conscience, d'un semblant de possibilité d'autoconscience. Et là-dedans, on voit souvent, très souvent, écarté du mot créature, les choses issues du machinique. Quand on parle de créature, on pense plus souvent justement à des choses organiques, puisqu'elles ont plus tendance à advenir. Mais encore une fois, quand on parle d'organique, qui généralement est le végétal, qui est aussi une forme d'organique, puisqu'on ne prête pas conceptuellement des cadres de conscience au végétal, on ne va pas parler de créature. Quand on couple deux fleurs ensemble pour créer une nouvelle espèce, on parle de création. La créature, donc, est liée d'un côté à l'animé, est liée à un principe évolutif, mais aussi à un principe de conscience.
Mais justement, cette conscience-là est en rapport avec ce que tu dis et ce qu'avait évoqué Marianne de que met le créateur de lui-même dans sa créature. Ça me fait penser à un mythe. Bon, je quitte un petit peu la robotique, mais justement, c'est celui de Pygmalion et Pyrrha. Parce que justement, Pyrrha est cette créature, c'est cette femme tirée de la matière, de l'inerte, qui représente alors deux choses, à la fois palliative et supplétive, d'une réalité en manque d'être et qui se substitue à l'absence de féminin. Et justement, alors je sais pas, peut-être, corrigez-moi, mais est-ce que Pyrrha a une conscience qui lui est propre ou est-ce qu'elle est simplement projection d'un désir ? Quelle est la part de conscience qu'a la création par rapport au créateur ici ?
En fait, ce qui est particulier, c'est qu'on peut se demander si une chose n'a pas. Enfin, si on. En fait, c'est pas. La conscience de la chose en elle-même n'est pas conférée, en fait, par. L'observateur, le créateur en lui-même, et est-ce qu'on considère pas que quelque chose est conscient parce que en fait, de notre point de vue objectif extérieur, on a l'impression de saisir une forme de conscience dans cette personne, enfin, ou dans cette chose qu'on observe. Et c'est pour ça que, par exemple, c'est impossible de percevoir une forme de conscience familière dans les plantes, et donc c'est pour ça qu'on se dit en fait, c'est pas des créatures, c'est des créations. Mais peut-être que, bah après, c'est un questionnement métaphysique un peu insoluble.
Tu veux
dire
que ça viendrait d'une ressemblance humaine, enfin d'une apparence
Ouais, c'est ça. Il y a un côté un peu... purée, il y a un mot pour ça.
L'anthropomorphisme.
Voilà, ouais. Anthropomorphique dans la créature, dans la créature en général d'ailleurs. Et c'est un peu ça aussi avec les créatures mythiques, qui sont souvent croisées avec des animaux, genre le centaure ou...
ce genre sirène.
Ouais, voilà, la sirène. Il y a toujours une part d'humanité en fait dans ces créatures-là. Et c'est en fait parce que c'est ce qui se rapproche le plus de l'humanité, c'est la seule forme de conscience dont on est sûr qu'elle est conscience, entre guillemets, la seule à laquelle on a vraiment accès.
Mais alors, ce que je veux dire. Un contre-exemple par rapport à ça, et qui mettrait davantage à distance la créature de l'humain, je l'ai trouvé dans Platon, c'est dans le Phèdre, si vous voulez checker, c'est en 252, où en gros, l'amant, il est présenté comme une statue qui est honorée dans cette espèce de temple intérieur qu'est l'amour, et dont on adore et célèbre les mystères. Et en fin de compte, si elle est statue, c'est qu'elle est inerte et qu'elle est simplement support d'un ensemble de projections du créateur sur sa créature. Alors certes, il y a l'anthropomorphisme, parce qu'on envisage un individu type humain, mais toujours une mise à distance quand même, deux degrés ontologiques différents entre créature et créateur, j'ai l'impression en tout cas.
Oui, moi aussi je voulais reprendre une référence de la philosophie antique avec Aristote et le concept de génération spontanée qui aurait tendance à penser. Alors c'est quelque chose qui a été très vite évidé des sciences qui aujourd'hui est très peu considérée, mais c'est de considérer que de la matière qu'on considère inanimée pourrait venir justement quelque chose d'animé. Un exemple très simple de ça, ça serait presque dire que demain d'un caillou pourrait advenir un être animé de cailloux qui possède du coup ce principe sujéifié, c'est-à-dire de devenir un sujet. Là, puisque je parle de philosophie antique, j'ose ne pas utiliser le mot de conscience. Déjà le mot sujet, c'est déjà beaucoup sortir du cadre d'époque. J'espère que j'ai plus le mot exact qu'emploie Aristote.
Anachronique,
oui, c'est anachronique, ça, beaucoup. Mais là-dedans, je pense que la question du créateur est très importante, parce que créature ne s'imagine pas sans créateur. Aujourd'hui, on a plutôt évidé la question de Dieu dans nos formes contemporaines, et c'est assez marrant de voir que la modernité, par exemple, le récit de la créature advient énormément au sein de la modernité. On peut penser bien évidemment à Frankenstein, qui est un peu l'exemple principal de la créature telle que tout le monde la conçoit, c'est-à-dire quelque chose qui est organique, quelque chose qui est créé, quelque chose qui a informe aussi, parce que la créature est informe, parce qu'elle est comme à un degré inférieur. C'est très rare de voir des créatures qui sont à des degrés supérieurs du créateur. Elle est monstre, justement, c'est la question de l'informe. Je pense que ça se questionne beaucoup avec cette question de monstre. Et aussi, là-dedans, provient aussi tous les sujets annexes, qui est parce qu'il n'y a plus un dieu qui donne tout, qui donne la manne, qui est absolu. Il peut questionner directement son créateur, en vouloir directement à son créateur, agir sur le créateur, le tuer, ne pas le tuer, et également subir directement le rejet d'autres personnes qui le voient comme créature, tandis que lui, ouais, en tant qu'intériorité, ne se perçoit pas comme créature.
Et tu parles du monstre, et ça me fait penser... on pourrait envisager la créature aussi comme... je pense par exemple au monstre et au mythe, à tout ce qui... Enfin, tout un imaginaire collectif qui en fait structure un peu la société et établit une différenciation entre ce qui est ce qui fait partie de la société, ce qui est normal, et de l'autre côté ce qui est étranger, monstrueux, ce qui est laid. Et je trouve que la créature est une figure importante pour comprendre ça, et ouais, qui structure vraiment le social.
C'est intéressant,
le binarisme que... ouais.
que tu parles de laideur, et d'ailleurs en articulation avec ce que tu disais, Benjamin, c'est que retourner un petit peu avec Dieu, mais tu disais que la créature ne s'imagine pas sans son créateur, et que justement il y a une possibilité que la créature, faite monstre, se retourne contre lui, et justement on remarque qu'il y a une forme d'inégalité, les deux sont pas sur le même palier entre créateur et créature. Ça poserait, j'ai l'impression, une contradiction logique, parce que la créature est nécessairement inférieure par rapport au créateur, qui a une forme de primauté ontologique ou antique par rapport à elle. Par exemple, c'est Saint Augustin qui nous dit qu'il y a une disproportion nécessaire sans quoi le créateur se créerait lui-même ou créerait quelque chose d'aussi parfait que lui, et il y aurait un dédoublement de la perfection qui constituerait une contradiction dans les termes. Ou même Ovide qui nous dit qu'on voit le meilleur mais on fait le pire, donc on peut pas vraiment... c'est là que réside, j'ai l'impression, notre nature monstrueuse, parce qu'il y a une imperfection métaphysique qui est contenue essentiellement en fait pour la créature.
Mais c'est même l'idée en fait que tout simplement la créature est un dérivé du créateur ou de la créatrice, et l'idée d'ailleurs par exemple dans la Bible, encore une fois, si on retourne à la Genèse, Ève en elle-même est même une créature en fait de l'homme, dans l'idée où le fait que en fait Dieu crée Ève à partir de la côte d'Adam, c'est l'idée même en fait, c'est aussi exprimer une forme d'infériorité de la femme par rapport à l'homme, dans l'idée où elle est dérivée d'un bout du corps d'Adam, donc elle est littéralement une version donc postérieure et donc inférieure aussi dans un sens.
Mais quoique, par exemple, Bacchus naît de la cuisse de Jupiter, ouais, et tous les deux sont dieux. Alors je pense qu'il y a encore une fois une forme de hiérarchie entre les différents dieux.
Il y a quand même une signification en arrière-plan, quoi.
Oui, l'un dépend de l'autre.
Ouais, c'est ça. Et même dans sa génération même, quoi. Dans les dieux mythologiques, quand tu penses aux dieux originels, genre à Cronos, etc., il y a l'impression que même ces dieux-là, ils ont une force un peu supérieure et une capacité plus grande. Enfin, tu vois, et plus on avance, plus les générations de dieux... plus on avance dans les générations de dieux, plus les dieux ont l'air...
Oui, on est des fractions, ça devient des fractions infantiles. De dieux et tout ça.
Ouais. Mais là-dedans, je pense que la question de la créature en fonction de la question de la valeur, des valeurs morales, est assez intéressante à voir, ne serait-ce que pour Frankenstein, qui, en tant que nouveau-né, ne possède pas, dans la plupart des récits qu'on voit, surtout, je pense surtout au film de 1933, si je ne dis pas de bêtises, où il est représentant en fait, d'une morale bienveillante. Son créateur non plus n'avait pas de morale malveillante, mais il est clairement mis en opposition avec cette foule qui va le rejeter en tant que personne difforme, et qui veulent du coup le tuer en tant que monstre sans qu'il n'ait fait d'actes, ou alors parce qu'il a fait des actes qu'il ne comprenait pas, enfant, et ce qui mène aussi à une autre question que je réaborderai plus tard, mais que je trouvais très intéressante, c'est est-ce que l'enfant est une créature ? Est-ce que son enfant est sa créature ? Est-ce que c'est une créature ?
C'est une vraie question.
Et la question du créateur imparfait a surtout lieu dans le récit moderne, et j'aime pas dire le mot postmoderne, mais c'est parce que le prochain exemple que je vais utiliser, c'est Dragon Ball. Dans Dragon Ball, le docteur Gero va modifier deux humains et fabriquer un cyborg, puis faire un être organique, mais les deux personnes qu'il va fabriquer, alors si je dis pas de bêtises, c'est C15 et C16, il leur donne du coup une super puissance, et leur mission, c'est de tuer Sangoku. Ils vont tout de suite se retourner contre leur créateur, parce que c'est quelqu'un, on le comprend sous texte, qui les torture. Et ils vont réveiller un autre qui est, si je dis pas de bêtises, alors c'est soit C17, soit C18, qui lui va être différent, parce que ça sera un peu l'archétype de Frankenstein, c'est-à-dire qu'il est purement gentil, il regarde les oiseaux, mais pour autant il ne peut pas sortir du fait de devoir tuer Sangoku. Mais pour autant on voit quand même une opposition entre le comportement de Dr. Gero, qui avait pour but en gros de conquérir le monde et d'être très vaguement méchant, et ce cyborg qui va finalement se battre pour sauver contre un être organique qui a aussi été créé par le Dr. Gero, qui s'appelle Cell, qui va lui-même chercher la forme parfaite en aspirant C15 et C16. Et donc à partir de là, je dirais que la question du moins parfait, plus parfait, ne se questionne plus trop, dans la limite où quand même ils sont programmés pour une chose. Et donc avec cette créature là et ces créatures et les créatures en général, se pose la question de la finalité. Est-ce que la créature a une finalité ? Elle n'a pas de finalité. Et souvent, en fait, ce que reproche dans le mythe moderne la créature à l'homme, qui au fond ce que reproche l'homme à Dieu un peu plus tôt, c'est quelle est ma finalité et pourquoi j'ai été créé alors que je n'ai pas de finalité.
Et en même temps, la créature n'a pas de finalité, mais elle est finie. Exactement comme l'homme. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'elle est... Je pense qu'il y a souvent l'expression d'une certaine colère, d'un ressentiment de la créature envers le créateur. C'est cette idée aussi que, à la fois, on a l'impression de ne pas avoir de finalité, de mission prédéterminée, etc. Et à la fois, en fait, on est programmé à mourir concrètement et à disparaître à un moment. Donc il y a une sorte de tension aussi existentielle, j'ai l'impression... au sein même de la créature, et c'est ça aussi qui crée en fait cette tension qui va nous permettre de voir si la créature aussi, enfin de se demander si la créature est capable aussi de dépasser cette aliénation originelle et cette finitude originelle, ou en tout cas ce sentiment d'absurdité aussi face à sa finitude et son manque de finalité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ?
Mais quand tu dis que la créature est finie, est-ce que tu veux dire que donc elle est finie en sens de finitude ou bien au sens de la création de cette créature-là n'est jamais achevée ? Parce que à ce moment-là, je vois deux cas, c'est-à-dire que on peut penser une limite de la créature, soit une limite qui lui est interne, c'est-à-dire que la matière à partir de laquelle elle est créée a une certaine limite, une certaine forme de résistance au-delà de laquelle on peut pas aller, ou bien externe. Donc le créateur imparfait que Benjamin évoquait, c'est-à-dire sa créature lui échappe, ou bien on pourrait éventuellement envisager alors du moment où justement sa création lui échappe. Une illimitation de la création, et donc quelque chose qui se reproduit de manière circulaire, cyclique, une borne qui est négative, c'est de l'indéfini plutôt que de l'infini, parce qu'à ce moment-là, ça rejoindrait le créateur, dans le paradigme ici notamment de Dieu, et on aurait une impossibilité de dire « Ok, là, la création est achevée, malgré la finitude d'une créature supposée ».
Bah, en fait, du coup, il y aurait l'idée que, à la fois, elle est prise, enfin, que cette créature, elle est prise dans une sorte de, comme tu dis, de cycle infini, et donc dans une sorte de continuité qui l'empêche d'exister par elle-même, pour elle-même, de manière absolue, etc. Mais en même temps, il y a aussi l'idée qu'elle est finie et qu'elle est marquée par une certaine finitude, dans le sens où, bah, si en tout cas on prend l'homme comme créature, bah, elle est destinée à mourir et donc à disparaître. Et donc, il y a une forme quand même de programmation, justement, de la créature, comme tu le disais, où genre, elle a un début et une fin, tu vois ce que je veux dire.
Hannah Arendt, donc ça c'est dans La crise de la culture, qui nous parle de l'éducation des enfants. Et elle nous dit « Si l'enfant n'était pas un nouveau venu dans ce monde des hommes, mais seulement une créature vivante pas encore achevée, l'éducation ne serait qu'une des fonctions de la vie. » En gros, pour Hannah Arendt, l'éducation, ça présente notre monde à l'enfant, de sorte à ce qu'il puisse ensuite le subvertir, ou du moins en renverser les codes, les normes, etc. Donc la transmission permet une réinvention, et l'enfant apparaît comme cette créature formée pour ensuite être capable elle-même de se former. C'est un peu presque ce paradigme fichtéen de pas de toi, pas de moi, pas de moi, pas de toi, dans le sens où j'ai besoin d'une intersubjectivité pour former ma propre personne. Bon. Ou des cas d'enfants qui échappent, admettons, à cette éducation. Je pense au personnage de Serge Souplié dans Les Garçons de Monterland qui est sous l'emprise d'un abbé, mais finalement lui échappe et l'abbé n'a pas son âme.
Du coup, ça renvoie aussi peut-être à l'idée que la créature, elle se trouve à la fois entre l'objet et le sujet, dans le sens où elle est modelée par un créateur et donc il y a une dimension. Enfin, l'enfant, justement, l'action de l'enfant, elle est très intéressante aussi parce qu'il y a beaucoup de parents qui considèrent les enfants comme des êtres modelables et modelables au point qu'on en fait ce qu'on en veut. On le modèle à son image à travers les règles qu'on impose, etc. Et donc, il y a l'idée qu'en fait, il y a beaucoup de parents qui considèrent que leurs enfants leur appartiennent, ce qui est d'ailleurs quelque chose de très, très questionnable. Et donc, il y a une dimension un peu d'objectification de l'enfant et à la fois cette dimension de sujet où c'est grâce à cette... Enfin, grâce, je ne sais pas si c'est grâce ou à travers cette objectification et cette expérience-là d'objectification que l'enfant apprend à être un sujet et apprend à subvertir, en fait, cette condition-là. Et c'est assez intéressant, du coup, de voir que... Enfin, c'est vraiment la question, est-ce que la créature est capable de devenir pleinement un sujet à un moment, ou est-ce qu'elle subira toujours cette forme d'objectification ?
Pour moi, elle est en fait de base un sujet. C'est justement ça qui fait que c'est une créature et pas, entre guillemets, une création. Et que, comme tu l'as bien dit, en fait, plus qu'un objet ou sujet, c'est une objectification. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on va lui imposer le concept d'objet, on va lui imposer une restreinte conceptuelle, abstractive, même existentielle, mais ça, je dirais que c'est pas absolu, c'est dans une limite de récit. Après, moi justement, tout à l'heure, tu avais parlé du monstre et j'aimais bien cette question par rapport à l'enfant, justement, du monstre. Souvent, c'est cette créature qui est soit prématurée, soit post-maturée. Je suis désolé de reprendre encore Frankenstein, mais Frankenstein, c'est vraiment post-maturé, c'est-à-dire c'est des morceaux de cadavres mis ensemble. La créature, ça peut être aussi du coup ce qu'on considère comme créature, mais créature monstre, mais qu'on va nommer créature plutôt qu'enfant. Ça va être cette chose qui va sortir beaucoup trop vite, qui va du coup être mal formée. La question du mal formé est souvent mise là-dedans. Et donc dans créature, oui, il y a tout de même en général l'attribution d'un degré inférieur par non-naturalité. Parce que la créature, on lui aborde toujours un principe, tout du moins si c'est une création de l'homme, c'est qu'elle est issue d'une non-naturalité. Elle n'est pas issue de la reproduction telle qu'on la considère, entre guillemets, naturelle. Là où la créature de l'homme, aussi, la créature de Dieu aussi un peu pareil, parce que ça serait un peu de dire que Dieu n'avait pas l'obligation de créer l'homme. Dieu n'était pas amené biologiquement, dans la limite où on considère Dieu comme une biologie, à créer l'homme. Pour autant, il l'a créé.
Ouais. Cet exemple d'enfants qui ensuite, ne respectent pas les ornières que leur ont imposées leurs parents, c'est assez courant. C'est-à-dire que c'est par exemple, mettons Lucien, dans Splendeur et misère des courtisanes, mais déjà avant dans Illusion perdue, il est comparé à un fils. L'abbé Herrera lui dit « Allez mon fils ». Donc on a déjà le retour du religieux, et c'est vraiment ce paradigme de un parent qui prétendument ou pas a de l'expérience et qui ensuite veut l'inculquer à son enfant et le former à son image. Herrera dira d'ailleurs « Je veux aimer ma créature, la façonner, la pétrir à mon usage, un peu comme Pygmalion et Pyrrha, afin de l'aimer comme un père aime son enfant. » Donc il y a vraiment une forme d'ascendant qui est exercée. depuis le créateur sur la créature, qui en fait en détermine le cadre ontologique, si on pourrait dire, et de même que ce que Benjamin disait, la créature, elle est faite sujet, ou du moins, elle peut être chosifiée, disons, presque dans un paradigme existentiel ou existentiel, et c'est un peu ce que font les sciences humaines, j'ai l'impression, par exemple, faire de... Enfin, il y a toujours cette distension épistémologique entre sujet et objet, qui est un peu résolue, en tout cas par Foucault, je pense aux mots et les choses, à la fin, il nous dit bien que l'homme, c'est une création, qu'elle est apparue et qu'elle disparaîtra parce que c'est lié à un paradigme épistémologique particulier qui prendra une fin.
Et maintenant, nous allons écouter Creature Fear de Bon Iver.
Vous venez d'écouter Creature Fear de Bon Iver.
Ça me faisait penser au film Pauvre créature, où tu parlais du fait qu'il y a un cadre ontologique qui est établi. Et en fait, moi, après, j'ai pas vu le film en entier. Mais du coup, le scientifique recrée du coup, la créature et il la fait sujet, mais c'est seulement pour. Elle est à la fois sujet parce qu'il attend à ce qu'elle se développe et à observer justement son développement, mais elle est objet d'expérience et elle va finalement subvertir ça, je crois, même si j'ai pas vu la suite du film, pour explorer ce qu'elle peut faire en tant que vraiment sujet plein et conscient dans le monde et peut-être subvertir son statut de créature et aller au-delà.
Ouais, du coup, c'est la volonté. En fait, là, on voit que c'est la volonté du créateur vraiment de créer pour, par pure expérimentation, observation, etc. Et donc, en fait, l'exemple de Pauvre créature, ça m'amène aussi, par exemple, ça me fait penser à L'école des femmes de Molière. Vous allez me dire pourquoi. Mais
pourquoi
en fait, le personnage principal, Arnolphe, il éduque, en fait, depuis qu'il est très âgé, hein, il a 50 ans, et il vit avec une très jeune femme qui s'appelle Agnès. Et en fait, depuis qu'elle a, je sais pas quel âge en fait, depuis qu'elle est très jeune, il l'éduque et il la modèle en fait à son image pour pouvoir l'épouser ensuite, ce qui est très malsain, évidemment. Et donc c'est tout le but de, d'ailleurs de la satire de Molière, c'est de montrer à quel point aussi, comment dire, bon là c'est pas directement une réflexion sur le créateur, plus sur la manière dont les hommes peuvent exercer une sorte d'emprise sur les femmes et veulent en fait justement pouvoir les forger à leur image pour qu'elles puissent correspondre à tous leurs désirs et leurs attentes, etc. Et donc ça montre à quel point en fait il y a la volonté aussi dans la manière dont on peut forger une créature, la volonté vraiment de se l'approprier et donc de conditionner complètement son existence. Et donc finalement même si le but c'est, enfin c'est pas le but, mais même si la plupart du temps les créatures arrivent à transcender cette condition-là, etc., dans beaucoup d'histoires qu'on a, le but c'est pas du tout en fait qu'elles transcendent cette condition-là, et c'est plutôt de les emprisonner dans une forme de dépendance complète au créateur en fait.
Ce qui est assez intéressant entre les deux références, du coup, c'est que Lanthimos, réalisateur de Pauvre créature, a réalisé Canine, dont le scénario est à peu près, apparemment, alors je ne connais pas du tout l'école des femmes de Molière, mais le principe c'est, ils vivent dans une villa très enfermée au milieu de nulle part, trois enfants dans lesquels ils mentent sur le sens du langage, le sens des gestes. Et par exemple, un exemple qui est un peu celui de la bande-annonce du film, un chat rentre dans leur jardin, il leur dit c'est un être monstrueux qui va vous assassiner et donc il faut le tuer, et il lui donne un coup de sécateur et ensuite il fait en sorte que tous ses enfants se mettent à quatre pattes pour qu'ils aboient en disant c'est comme ça qu'on fait fuir les monstres. Le récit c'est aussi le récit de quelqu'un qui veut s'enfuir. Pourquoi ça s'appelle Canine ? Parce qu'il leur disait c'est le jour où ta canine elle tombe deux fois et ensuite elle repousse que tu pourras partir. Et donc quelqu'un se donne un coup de caillou, je suis désolé de spoiler, coup de caillou pour ensuite s'enfuir et se cacher dans le coffre de la voiture, où il disait aussi que du coup c'était toxique en dehors de l'air de la maison, donc il ne sortait pas de la maison. C'est un récit là plutôt d'une essai de mise en créature, mais en même temps ça met cette question de l'enfant créature, est-il créature, et ça pose la question de la liberté.
Complètement.
La créature, elle a un libre arbitre ou pas, et en général, la création est créature parce qu'elle a, dans la limite où on considère la liberté ou le libre arbitre, elle a la possibilité ou la potentialité de cette notion, de ce concept de libre arbitre.
Et du coup, il y a la volonté, quand on fait de quelqu'un une créature, il y a aussi peut-être justement la volonté de restreindre ce libre arbitre et de l'empêcher de se déployer. Enfin, dans l'idée justement de maintenir cette dépendance, en tout cas dans l'exemple que tu donnes, très clairement, il tente de faire de ses enfants des créatures justement pour les emprisonner complètement. Et donc, ça pose la question de la liberté dans le sens où la créature, même si elle est intrinsèquement libre, le but c'est de l'empêcher en fait de prendre conscience de cette liberté, dans un sens.
Je dirais pas le but, mais je dirais le but dans des récits...
Du créateur, on a l'impression un peu, en tout cas.
Je dirais pas du créateur en général, mais je dirais qu'il y a une mainmise sur ce type de récit qui est assez général, et qui justement c'est la différence avec Pauvre créature, où le créateur n'a pas mainmise dans Pauvre créature.
Après j'ai l'impression qu'on peut toujours concilier les deux, notamment Benjamin, quand tu dis que la création est créature, ça me rappelle, bon le parallèle est un peu lointain, mais la monade de Leibniz. Pourquoi ? Parce que quand Leibniz pense Dieu, pour lui Dieu crée les choses selon un double principe, celui d'autonomie et d'hétéronomie, c'est-à-dire qu'il y a une hétéronomie par rapport aux règles divines qu'il institue en sa créature au moment où il la crée. Donc ça pourrait être cet ensemble que tu mentionnes d'interdits et de principes, par exemple à se mettre à aboyer, etc. Et puis il y a l'autonomie de la monade qui ensuite se développe par elle-même. Et donc c'est ce que par exemple Marianne mentionnait sur la possibilité ou pas de s'affranchir de ce créateur-là. La créature, c'est un petit peu cet entre-deux qui, selon le degré de liberté et de libre arbitre dont elle dispose, est susceptible ou pas de s'affranchir, j'ai l'impression.
Ouais. C'est une question C'est une question purement contingente, au final. C'est une question de circonstances. Enfin, on pourrait dire que c'est contingent, et en même temps, si on se penche du coup sur un point de vue, enfin, d'un point de vue plus social qu'on n'a peut-être pas encore exploré, l'idée qu'on ait des créatures sociales aussi, je pense que c'est un angle assez intéressant justement dans cette idée de capacité d'affranchissement ou pas. Par exemple, Ricoeur, dans ce même cas ou dans un autre, il pense l'interdépendance entre les sujets et le fait que on est entièrement dépendant, on est dépendant des autres et en fait on ne peut pas exister sans notre interaction avec les autres. Donc il y a une idée un peu de, on est des créatures et on est créateur et créature à la fois en fait de la société et de nous-mêmes, vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où sans notre interaction avec les autres, on pourrait pas exister, donc on dépend d'eux, donc on est un peu leur créature, et en même temps, c'est nous qui sommes à l'initiative de ces relations sociales, de ces interactions sociales, et donc en fait, sans notre existence à nous, il n'y aurait pas de créature, donc on est aussi les créateurs de ces situations-là. Et en fait, il y a l'idée, du coup, qu'il y a une forme de dépendance irréductible. Et donc, si je reviens à la dimension sociale, donc ça, c'est pour l'idée que dans une société, en fait, on est interdépendant. Mais en fait, je pense que Ricoeur, il pense pas, par exemple, les différents degrés de dépendance et la manière dont, dans un contexte sociologique, les degrés de dépendance aux autres sont pas les mêmes, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, il y a certaines personnes qui vont être plus prises dans des conditions sociologiques, matérielles, asservissantes, et donc qui les plongent dans une profonde dépendance aux autres, à la société, etc. Qui donc vont être, avoir plus de mal peut-être à s'affranchir de leurs conditions de créature que en fait d'autres individus qui seront favorisés socialement. Et en fait, je pense aux écarts de richesse, mais aussi en fait aux inégalités systémiques, sociales, racistes, sexistes, etc.
Après, ouais. Je pense pas que la personne qui dispose, on va dire, d'un grand capital s'affranchit de son statut de créature, dans le sens où il est toujours dans un habitus justement du « j'ai le droit de tout faire », donc comme d'autres le font, je fais tout. Je pense au médecin, tu fais ton Club Med toutes les vacances, précisément parce que d'autres médecins le font, parce que tu y es habitué, parce que les autres le font, parce que tu as la possibilité de le faire. La personne qui reste chez soi, qui sûrement travaille à ce moment-là, n'est pas plus ou moins une créature, même si, comme tu l'as mentionné, il y a ces questions, on peut penser aux réseaux sociaux, on parlait au début d'Instagram, le réseau qui devient quelque chose temporairement d'un point de vue horaire dans ta vie prend énormément de place, et d'un point de vue aussi d'importance dans les conversations, dans les sujets, va vraiment au quotidien te forger à être cette personne ou à explorer telle méthode d'apparition sur un plus long temps horaire, sur une plus grande période et avec une plus grande prégnance.
Ce que tu essaies de dire, c'est qu'au final, même les médecins et les personnes privilégiées, elles sont tout aussi dépendantes de leurs conditions de créature, et elles ne s'en affranchissent pas forcément davantage, c'est ça que tu essaies de dire ?
Moi, après, le principe, c'est que si on veut utiliser le mot créature pour désigner qu'on est les résultats socio-historiques, économiques, même métaphysiques au fond, et organiques à un moment donné, il y a personne qui s'affranchit véritablement de cet effet de créature, sinon précisément le créateur qui serait original et qui ne serait pas une créature selon certaines théologies.
Après, factuellement, je pense que si on pense d'un point de vue purement matériel, je pense par exemple aux femmes, et là je vais me baser par exemple sur plein d'écrits féministes, je pense par exemple à Simone de Beauvoir qui dit qu'il y a un destin biologique et sociologique qui pèsent sur les femmes et qui font qu'elles sont des créatures qui sont peut-être aliénées de ce qu'elles auraient pu être vraiment, et qui imposent un certain nombre de comportements, de désirs, de devenir, etc. Et je pense que c'est pas forcément vrai de dire que tout le monde n'est pas une créature, ou qu'il y a différents...
J'allais rebondir et dire, en fait, la marge de manœuvre des individus qui sont plus privilégiés, entre guillemets, est plus grande, le libre arbitre, et tu dis oui, il est pris dans son truc, il va au Club Med avec tous les autres médecins, machin, mais il y a quand même la possibilité de ne pas le faire dans la mesure où il y a plus de... En fait, l'expression du libre arbitre est, comment dire, il y a plus de place... pour exprimer son libre-arbitre, il y a plus de marge de manœuvre, il y a plus de facilité à le faire. Ces créatures sociales-là qui, du coup, en fait, mais c'est le principe même du privilège. C'est le fait qu'on a plus de capacité à s'autodéterminer quand financièrement, socialement, sous plein d'aspects différents, on a la position dominante dans la société, puisqu'il y a une hiérarchie dans la société. Tu vois ce que je veux dire ?
Moi, je dirais du coup qu'il y a deux choses. Il y a le principe de créature ontologique, c'est-à-dire ontologiquement, on est des créatures, tous, niveau, dans la limite où on considère des niveaux. Et après, il y a l'effet de créaturisation.
Ouais.
Et je dirais que c'est de ça dont vous parlez là, et c'est pas du tout quelque chose que je voulais dénier ou quoi
oui,
que
non,
ce soit.
Oui, bien sûr, j'ai pas eu
c'est juste qu'après, il y a des degrés de créaturification, précisément dans le regard social de champs sociaux et de champs socioprofessionnels, de personnes, de catégories de personnes abstraites, mais du coup réelles parce qu'on les impose, qui ensuite vont se voir donner un degré de créaturification, ouais. Et c'est précisément cette chose qui sort un peu du cadre où on va dire, nous, il y a des créatures et il y a des humains,
ouais.
L'humain dispose d'une plus grosse formation, tandis qu'il y a plus d'informes dans la créature. Il y a plus aussi de choses où, quand elle fait quelque chose qui sort de l'informe, tu vas lui refuser le fait qu'elle a fait cette chose-là, parce que elle est censée appartenir à un endroit, à un milieu, à une limite, et que tu vas lui refuser le fait de sortir de cette limite.
Dans un paradigme d'expérience en laboratoire, enfin presque comme ça, la créature, si on la transpose au niveau social, je dirais qu'il y a juste différents paradigmes, oui, de création. C'est-à-dire que, mettons, le petit bourgeois qui, par habitus, va aller au musée, ou bien la femme qui, par intégration de contraintes sociales, va adopter un certain comportement, ou l'ouvrier, etc. Je pense que chacun est créature à une échelle différente, mais demeure quand même pris dans un ensemble de contraintes.
Oui, mais du coup, c'est sur la question de l'affranchissement, on n'est pas sur les mêmes contraintes matérielles, concrètes, et donc on n'est pas sur les, je pense, sur les mêmes limites et sur les mêmes, la même aliénation, et je pense que ça n'a pas le même impact, ni même les... En fait, c'est ce qu'on disait quand on disait... Enfin, on a dit qu'on allait se pencher sur les conditions existentielles, c'est quand même montrer qu'il y a des degrés, en fait. L'idée que... En fait, toute créature, enfin, en fait, il y a à la fois, donc tu parles du processus de créaturisation, il y a à la fois une sorte, quand on pense la créature ontologique, c'est en fait nous qui nous imposons une forme de créaturisation de manière globale, au sens où nous sommes des humains, nous sommes des créatures de Dieu, ce qui d'ailleurs est un truc qui peut être questionnable. On peut y adhérer ou non, il y a aussi une dimension purement idéologique à ça. Et en fait, le processus de créaturisation, en fait, c'est un truc, du coup, sur le plan ontologique, mais c'est le même, en fait, celui qu'on impose aux autres. C'est juste que la différence, c'est qu'on va imposer des degrés de créaturisation en fonction du point de vue qu'on a, en fait, qu'on occupe, et de la posture qu'on occupe dans la société. Et donc, en fait, comment expliquer ? Il y a quand même... je pense qu'il peut y avoir une dimension perverse à ce processus de créaturisation, dans le sens où ça me fait penser justement à un ouvrage de Donna Haraway qui a écrit, je crois que c'est le Manifeste du cyborg, où elle essaie vraiment de dépasser les conceptions dualistes, par exemple opposition homme-femme, homme-animal, bon, il y en a plein d'autres, nature-culture, voilà, les trucs de base... qui sont un peu nos cadres de pensée originels. Et en fait, elle essaie de les dépasser en montrant que ça introduit une hiérarchie et que, en fait, entre guillemets, ça introduit des rapports inégaux où, en effet, on se constitue en tant que créature, mais tout ce qui est autre et tout ce qui nous paraît, c'est ce que tu disais aussi, tout ce qui sort du cadre, etc., on le créaturise, mais dans une volonté aussi d'infériorisation, comme l'homme peut le faire sur l'animal, par exemple.
Mais quand tu parles de créaturisation, quel est le créateur ? Est-ce que tu te positionnes toi-même en position de créateur, ou bien c'est une création qui est subie de manière extérieure ? Et à ce moment-là, quelle est la relation entre les deux formes de création ?
Bah, y aurait l'idée que, en fait, les humains se réapproprient cette capacité à créer et à créaturiser. Mm-hmm. Tu vois, et donc, ça veut dire qu'ils se... C'est une volonté d'affirmer sa volonté de puissance, comme dirait Nietzsche, mais c'est ce truc de... En fait, cette volonté de... d'affirmer une sorte de position de supériorité sur un autre être, et donc le créaturiser, c'est le dominer aussi dans d'une certaine manière.
Bah, ça me fait penser à Paul B. Preciado, qui dans Je suis un monstre qui vous parle, dit que la créature, qui est donc la personne queer, lui en l'occurrence parle de personne trans, qui est en fait dépourvue de subjectivité et qui est donc fait créature parce qu'elle est considérée en marge de la normalité, on la prive de sa voix et en fait on va parler à sa place et on va la mettre... en dehors des catégories de perception du monde, qui sont les hommes et les femmes d'un côté, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Et oui, ça rejoint ce que tu dis, de une forme de... tu parlais de recréation, on recrée... excuse-moi,
de créaturisation, on créaturise les autres, en fait.
Oui, c'est ça.
Et pour les dominer dans une certaine mesure, ou pour affirmer une sorte de position de supériorité.
Mais moi, je dirais que justement, cette créaturisation, elle a lieu dans les deux sens.
Oui, elle peut être...
Parce que moi, justement, dans un effet très foucaldien, Foucauldien, je sais pas, justement, il y a cette notion de... le contre-pouvoir est un pouvoir aussi.
Ouais.
Et donc là-dedans, en fait, quand je nous entends, même moi, quand j'ai mentionné le médecin qui va au Club Med, je créaturise le médecin comme étant une personne qui va au Club Med, qui gagnerait tant d'argent.
Ouais.
J'ai fait un déni, en quelque sorte, d'humanité individuelle profonde, en rapprochant ça à une catégorie socio-professionnelle, ce qui a des réalités matérielles, mais ce qui a aussi, du coup, des spécificités
ça
parfois.
Et
donc, là-dedans, je dirais, effectivement, il y a, y a tout ce processus du... la société, quand on utilise ce mot-là, on va dire des instances, des structures de pouvoir vont pouvoir avoir des discours majoritaires et par discours majoritaire aussi avoir une législation ou des réalités d'application via justement l'interdépendance relationnelle et cette espèce de pouvoir d'ostracisme et de comment dire d'emprisonnement les uns envers les autres, il y a un mot pour ça mais j'ai plus le mot dans la tête, de précisément ce principe du obliger les autres à être cela, et obliger les autres à... Et donc il y a des degrés de créaturisation qui sont liés à des degrés de pouvoir.
Il me
semble que tout ça soulève pas mal de questions éthiques, j'ai l'impression, par rapport à la créaturisation et l'emprise qui peut être exercée du créateur sur la créature, et même dans un paradigme encore une fois social, c'est-à-dire que la création serait une forme d'exercice de contrôle, et je pense donc à ce que dit Habermas dans le discours philosophique de la modernité, où il écrit, je cite, « Le regard objectivant et examinateur, ce regard qui décompose analytiquement, qui contrôle et perce tout. » Bon, en gros, ce qu'il veut nous dire, c'est que le panoptique foucauldien, il a été intégré par chacun d'entre nous et que chacun exerce une forme de contrôle sur les autres par le regard qu'il porte sur lui et la façon dont il le conçoit. En fait, on remarque que, mettons, un regard masculin sur une femme va pouvoir, par type de contrôle, imposer un certain nombre de normes, de valeurs, etc., auxquelles elle doit se conformer parce qu'elle-même relève d'une projection et inversement, en fait. Et c'est cette structure panoptique qui entraîne une forme d'asservissement, c'est-à-dire on s'enlise dans cette forme d'impossibilité de sortir de la création réciproque. En tout cas, j'en ai l'impression.
Et du coup, ça pose la question, on revient à la question du dépassement, de la possibilité du dépassement, de l'affranchissement. Ça me fait penser du coup au film. C'est vrai qu'on disait du coup que forcément il y avait une volonté d'inférioriser, enfin qu'on pouvait penser qu'il y avait une volonté d'inférioriser la créature à travers le regard du créateur, etc. Mais en fait, par exemple, le film The Substance, justement, contredit un peu cette idée-là, parce qu'il peut y avoir aussi, dans la volonté de créer, dans la créature, l'expression d'une volonté de perfection. En gros, la volonté de créer quelque chose de plus parfait que soi, et une meilleure version de soi, entre guillemets. Et c'est exactement ce qui se passe dans The Substance, sans vouloir trop spoiler le film, mais en fait, la protagoniste ne se supporte plus telle qu'elle est actuellement, une actrice de 50 ans, etc., qui se sent un peu dépassée par ses conditions de vie, etc., par son propre physique. En gros, elle supporte plus sa vie telle qu'elle est et elle se supporte plus elle-même. Et donc, elle veut, grâce à une substance un peu mystérieuse, elle a la possibilité de créer la meilleure version d'elle-même. Et donc, elle y parvient, entre guillemets. Et donc, en fait, il y a une créature qui émerge d'elle-même, qui est sa meilleure version d'elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est elle en plus parfaite, dans un sens. Et donc là, c'est un peu l'inverse, finalement, parce que la créature, elle est pas inférieure, elle est même pas, infériorisée à travers le regard de la protagoniste en elle-même, elle est même plutôt admirée, dans un sens. Et petit à petit, on va pas spoiler les films, mais ça se retourne contre elle, et la créature parvient à prendre le dessus sur la créatrice. Ce qui est assez paradoxal. Enfin, du coup, parce qu'en fait, elle est la meilleure version de la créatrice et donc elle est supérieure, au final, à la créatrice. Ce qui est
c'est un peu le concept de onde prométhéenne de Gunther Anders. En gros, la créature échappe au créateur, puisque précisément, il n'est plus en contact avec elle, ni par sa praxis, ni par sa poiesis.
Ouais.
Bah, cette question de l'avatar, comme on l'a questionné dans les réseaux, par le principe de rareté, d'économie, qui là fait une différenciation avec, on va dire, un être de corporalité devant nous qui est aussi dans un autre type de temporalité, un autre type d'être au monde et de monstration de cet être au monde. Il y a cette question dans la starification et dans la starification de l'avatar, parce que les deux ne sont pas dissociables, de cette possibilité de perfection. Souvent, justement, il y a cet effet d'idolisation et donc d'idole pour des stars, pour des personnes. C'est aussi parce qu'il y a un secret sur leur vie, il y a du non-dit. Et ce non-dit fait partie, au fond, de cette créaturisation, on va dire, de la personne star, sur un principe de tout ce que tu connais d'elle, c'est ce qui pourrait la rendre soit parfaite en raison d'une image. Si par exemple tu veux que Charlie XCX soit un peu crado, on fait en sorte de la rendre un peu crado, mais on montre seulement ce qui, est, ce qui rentre dans la limite du classe crado qui représente Charlie XCX. Je me crée, on me crée, ce que j'ai créé me crée.
sans aller chez les cyborgs, Balzac, dans la théorie de la démarche, nous dit adoptez un style et créez-vous.
Ouais, enfin, c'est tout simple. Mais...
C'est tout simple, hein.
Franchement,
c'est
drop the mic.
Parce que...
d'écouter Radio Pium, disponible un dimanche sur 4, mais diffusé sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Au micro, c'était Marianne Varem, Benjamin Clipper, Anna Leguard-Mesguez, moi-même, Anthony Dominici. À la réalisation, c'était Maël Bouvray. Le podcast sort un dimanche sur 4. Vous pouvez toujours nous envoyer vos questions via mail à notre adresse opium.radiopium@gmail.com, sur Instagram, opiumphilosophie, ou bien vous pouvez essayer de nous trouver sur TikTok. À bientôt!